Alors, je pensais déjà depuis un certain temps à ce message un peu délicat par certains côtés. Et je me suis dit que l'occasion de ce jour qui est le jour de la fête des Pères, eh bien, s'y prêtait. Hein. En tout cas, que le Seigneur lui-même parle à nos cœurs, comme il nous parle à chaque fois que la parole de Dieu s'ouvre. Ne retenons pas ce que les hommes disent, mais c'est ce que Dieu dit à travers ses instruments. Alors aujourd'hui, c'est la fête des pères et je voulais poser la question de savoir quel modèle de père sommes-nous. Alors les sœurs, vous pouvez rester bien sûr, hein, ça vous regarde aussi. Hein, voilà, on vit tous ensemble quelque part. Hein. Et je vais me poser sur un personnage de la Bible dont en fait on ne sait pas grand-chose en fait. Donc je n'ai peut-être rien à vous raconter puisqu'on ne sait pas grand-chose sur lui. Il n'est même pas fait mention de sa foi. Il n'est même pas dit c'est un homme de foi. Et pourtant, je pense que c'est l'homme à qui Dieu va confier la plus grande responsabilité de tous les temps. Joseph. Oui. Il y a les nôtres qui sont... Non. Oui, c'est Joseph. C'est curieux, hein? On aurait aimé avoir des chapitres entiers sur ce personnage, hein? Et en fait, dont la responsabilité reste unique en tant que père du adoptif du Fils de Dieu. Alors, il n'est pas seulement celui qui a voilà, déclaré à la mairie de Bethléem la naissance, hein? Mais il va porter aussi toute une responsabilité, l'éducation. Alors, on sait qu'il habitait Nazareth, qu'il appartient à la nation d'Israël, qu'il est descendant de Judas, descendant d'Abraham aussi, de fait. Mais cela était-il suffisant pour être le père adoptif de Jésus? Je ne le pense pas. Fallait-il aussi que cet homme ait des qualités que Dieu a perçues pour lui confier son fils? En tout cas, quand nous confions nos enfants, bien sûr, nous nous interrogeons sur qui est la personne à qui nous les confions. Quelles sont les qualités de cet homme? En quoi Joseph peut-il nous inspirer, nous, pères, et nous en tant que chrétiens et chrétiennes? Alors le passage que nous allons lire se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, versets 18 à 20. Matthieu 1. Voilà, verset 18 à 20, et nous dirons aussi le verset 24. Il est dit ceci, « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et au verset 24, il est dit « À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. » Quatre qualités que je voudrais mettre en avant concernant Joseph. La première de ces qualités, c'est qu'il est dit, il est indiqué que Joseph était un homme de bien. On l'a entendu, on l'a lu. Un homme de bien, voilà, Joseph, verset 19, hein, Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Alors, imaginons un peu la douleur de cet homme de bien qui apprend la nouvelle. Sa fiancée est enceinte. Et il sait très bien que rien ne s'est passé. Donc, imaginons l'incompréhension, même la douleur. Imaginons le combat intérieur de cet homme face à la terrible nouvelle. Quelle est sa première préoccupation? Eh bien, Joseph ne veut pas être à l'origine d'un scandale vis-à-vis de Marie. Alors, il connaît la valeur de sa fiancée, sa future épouse. Il n'est pas rentré dans comment est-ce possible, etc. Il dit une chose. Aïe, je veux faire cela de manière, voilà, à ne pas envenimer la situation. Il sait se maîtriser. Il sait que Marie est potentiellement pourrait se faire lapider dans le contexte d'Israël de l'époque. Ce serait même son droit. Quand même, son honneur a été bafoué. Mais Joseph va rechercher le bien de Marie. C'était un homme de bien. Bien, ça veut dire conforme à ce que Dieu cherche. Qu'est-ce que Dieu cherche? Ce matin, notre frère Jacques nous a dit, en parlant de Simon, Simon cherchait à évaluer selon son propre jugement. Et il a appris comment Jésus pensait. Jésus nous demande d'être des hommes de bien. Il dit même que nous sommes appelés à bénir et non pas maudire. 1 Pierre 2:12 dit, au milieu même des païens, pour les chrétiens, ayez une conduite, afin que là, ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. Nous sommes appelés, nous pères, nous chrétiens, et chrétienne à être des hommes et des femmes de bien. Ça ne veut pas dire parfait. Ça ne veut pas dire sans péché. Avec une auréole sur la tête, vous savez, hein, ce serait formidable, on ferait des économies de lumière. Hein. Mais en réalité, un homme de bien, c'est d'abord aux yeux de Dieu. Et pour Dieu, le bien n'est pas le meilleur des principes. C'est le seul principe. Être quelqu'un de bien. Ce terme différencie en réalité les hommes de la Bible avec les hommes de leur génération. Celui qui marche avec Dieu se distingue de celui qui ne marche pas avec lui. Même David, dans le psaume 16, verset 4, voit qu'autour de lui, on multiplie les jurons ou les imprécations sur des idoles, etc. David dit, on multiplie les idoles, on se hâte d'aller vers d'autres dieux, mais moi, je ne mettrai même pas leur nom sur mes lèvres. Un homme de bien. C'est le même principe qui est souligné pour les dirigeants d'église. Timothée 1, verset 5-6, nous dit 7-9, pardon, nous dit ceci. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, querelleur, attiré par des gains malhonnêtes, qu'il soit au contraire hospitalier. Ami du bien. Ah, c'est quelque chose, hein. Je me souviens de ce pasteur qui s'est mis en colère après un culte. Oula. En fait, il était invité dans une église où il n'y avait pas de pasteur. Et les gens avaient écouté sa prédication, ils l'avaient trouvé formidable. Et puis ils lui ont dit, ah, ce serait bien que tu sois pasteur chez nous. Et il a dit, mais vous êtes fous. Vous n'avez même pas vu ma vie. Que vous dites de devenir votre pasteur? D'abord, il faut regarder si la personne est un homme de bien. C'est cela, les critères d'un dirigeant. Joseph était un homme de bien. Mais il était aussi, parce qu'il était un homme de bien, transmetteur de valeurs. On ne peut pas être un homme de bien pour soi, hein, bien confiné à la maison tout seul. Les proverbes nous disent qu'un fils sage écoute l'instruction du père, mais le moqueur n'écoute pas le reproche. Proverbe nous dit, un fils insensé donne du mécontentement à son père. Proverbe 23 nous dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Nous sommes appelés, pères, à être des instructeurs, à transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur. Joseph, cet homme de bien se voit confier l'une des éducations, alors la plus délicate possible. Quel homme pourrait-il dire « je suis et je veux être l'éducateur de Jésus » Fort. En tout cas, il faut vraiment qu'il ait de l'humilité. Les rabbins disent que celui qui n'apprend pas un métier à son fils, lui apprend à voler. C'est pas seulement une instruction théorique, mais aussi une instruction pratique. Et je pense que dès que Jésus était capable de tenir une scie, un petit marteau, tenir une planche, etc., et un clou, eh bien, Joseph l'a amené à ses côtés pour qu'il travaille. Et c'est important que les pères passent du temps avec leurs enfants, pas seulement du temps agréable, de plaisir, mais dans le quotidien, dans les petits travaux, dans les choses et d'autres. Marc 6, il est dit, n'est-ce pas lui le fils du charpentier? Ah oui, le charpentier. Ils reconnaissent que Jésus est charpentier. Cependant, la formation professionnelle ne suffit pas. Il y a plus important à travers ce que nous transmettons, il y a surtout l'éducation spirituelle. Et nous savons, bien sûr, que déjà Dieu avait dit à Moïse, demande aux Israélites d'être des transmetteurs de valeurs. Deutéronome 6, hein, tu inculqueras tes fils, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Nous devons transmettre ce qu'il y a dans notre cœur. Joseph a certainement raconté des histoires de l'Ancien Testament à Jésus. Il lui a aussi appris à prier, à lire. Il l'a peut-être amené, non pas à l'école du dimanche, mais à l'école du sabbat, dans les synagogues. Les efforts de Joseph joints à ceux de Marie furent un succès, car il est dit, Luc 2,40, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'est merveilleux, non? Quel cadeau pour un père, une mère, d'avoir un enfant qui marche sur les voies du Seigneur. Et quel privilège pour un enfant, quel qu'il soit, d'avoir comme père un homme de bien qui transmet. Peut-être que nos pères étaient des hommes de bien, peut-être pas. Peut-être les deux, capables du meilleur comme du pire. Mais nous-mêmes, Père, quelle image laissons-nous ou allons-nous laisser à nos enfants? Quand nos enfants nous voient, est-ce qu'ils nous voient prier? Est-ce qu'ils nous voient à la maison lire la Bible? Est-ce qu'ils nous voient, et ils nous observent, est-ce qu'ils nous voient témoigner de Jésus? Peut-être pardonner ou demander pardon? Est-ce que nos enfants nous entendre quand nous chantons à l'église? Ça, c'est des choses importantes, hein. Tout à l'heure, c'était bon, mon gars était en train de jouer, et puis, voilà, son fiston était là. Hein? C'est quand même quelque chose qui est transmis, là. Que nous le voulions ou non, nous laissons un impact dans la vie de nos enfants, par notre vie spirituelle. Que nous le voulions ou non, nous sommes des transmetteurs de valeurs. L'image du Père, se façonne du Père céleste, se façonne aussi à travers l'image du Père de famille. Il y a quelques années, un président américain a décrit le manque de pères aux États-Unis comme l'un des problèmes sociaux les plus graves. Et les experts ont même dit qu'ils avaient sous-estimé toutes ces théories du XXe siècle qui avaient tendance à mettre le Père de côté. Moi, je demande à Dieu, quand est-ce que notre société va enfin ouvrir les yeux et réaliser les conséquences d'un manque de père? On peut se poser la question, ce soir, combien d'enfants vont-ils se coucher sans leur père biologique à la maison? D'où le succès de Papa Outé, hein? Eh oui, parce que la génération de jeunes s'est sentie là concernée. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, dit ce chanteur. Un jour ou à l'autre, d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Hein? Joseph était un homme de bien, transmetteur de valeurs. C'est au père qu'incombe aussi la responsabilité de l'enseignement. Dieu dit à Abraham, je l'ai choisi lui afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Et vous rappelez ce que Josué a déclaré? moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, c'est quelque chose, hein? Alors, Joseph était un homme de bien, c'était un transmetteur de valeurs, c'était aussi un homme de décision. Luc, Matthieu 1, 19, il est dit que Joseph, qui était un homme de bien, ne voulait pas diffamer donc Marie et se proposa de rompre secrètement avec elle. En fait, Joseph s'est proposé probablement de faire une lettre de divorce, comme le stipule Deutéronome 24, 1, hein, et dans lequel il n'aurait certainement pas indiqué la cause de la séparation, afin de ne pas la diffamer. C'est un dur combat dans son cœur, hein. Comme parfois il y a un dur combat dans nos vies, entre ce que j'ai envie de faire et ce qui est juste devant Dieu. Il faut alors me décider. On ne peut pas être un chrétien dans l'abstrait. À un moment donné, il faut s'arrêter, prendre une décision. Homme ou femme de décision. Quelqu'un qui est un homme ou une femme de décision, c'est avant tout quelqu'un qui va laisser Dieu maître. Dieu laisser son mot à dire dans la situation. Quelqu'un qui cherche ce qui est conforme à Dieu, selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi il est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il cherchait ce que Dieu voulait. Et il le mettait en pratique. Jésus lui-même dit, mais ne vous bornez pas seulement à écouter. Hein? Et ça sert à rien d'écouter, de ne pas pratiquer. Malheureusement, certaines personnes ne se rendent pas compte de l'importance de l'engagement et de la décision dans la vie. Joseph, oui. Certains hommes veulent devenir adultes sans laisser les habitudes de l'enfance. Certains veulent se marier sans mettre de côté leur égoïsme. Certains deviennent parents sans changer leur mode de vie ou leur emploi du temps. Nous sommes appelés, mon frère, ma sœur, à marcher en nouveauté de vie. Et cela, c'est le Seigneur qui le produit. Nous sommes engagés à marcher revêtus de cette nouvelle créature. Ici, la décision de Joseph était de rompre sans diffamer Marie. Et puis, quand il a appris que l'ange lui a dit « prends-la », sa décision était d'obéir. Et certainement, il a dû crier, oh là là, Seigneur, comment je vais faire? C'est pas facile, il n'y a pas de mode d'emploi. Moi, j'aimerais qu'à la maternité, on nous donne un bon mode d'emploi. Voilà, ça, c'est être un bon papa. Alors, on télécharge le truc et ça marche. Et ça marche pas comme ça. Alors, hier soir, en faisant le tour de la maison, j'ai vu une magnifique tourterelle. Elle était vraiment magnifique. C'était une des deux tourterelles qui, chez nous, font des croucrous, croucrous, hein, et que Esther répète et voilà, hein, et imite. Mais cette tourterelle était au pied de la baie vitrée et elle était morte. Chaque année, alors j'ai un peu cherché, hein. Bon, j'ai un peu compris, mais j'ai un peu cherché et j'ai vu que il y avait un article assez intéressant dans 20 minutes le journal, pas de pub, il faudrait citer tous les journaux, c'est pas grave. Donc chaque année, dès le printemps, des centaines de milliers d'oiseaux meurent en fonçant dans les baies vitrées. C'est terrible, hein. Et dans les gratte-ciel, ils sont obligés d'indiquer maintenant, voilà, par des bandes, hein, de faire une indication visuelle pour que les oiseaux ne se plantent pas contre ces baies vitrées. Parce que ces baies vitrées, soit elles sont transparentes et l'oiseau ne le voit pas, soit alors elles reflètent l'horizon derrière et l'oiseau pense qu'il y a de l'espace. Et le journal 20 minutes disait que nos fenêtres font une hécatombe chez les oiseaux. On entendra, nous, désormais plus le roucoulement de cette deuxième tourterelle. Et c'est un peu un côté triste, hein. J'imagine celle qui reste se pose la question, mais où est l'autre? Mon frère, ma sœur, il y a une autre fenêtre face à laquelle des centaines de millions d'enfants, de jeunes et d'ados se frappent et meurent. c'est la fabuleuse fenêtre de l'Internet. Alors, je ne suis pas un anti-Internet, hein, soyons clairs. Hein. Je dis seulement que, mes frères, nos enfants sont en réel danger, séduits par des doctrines démoniaques, de ce qu'Internet diffuse, et même sur Jésus. C'est absolument extraordinaire, même affolant. Nos jeunes et ceux qui ne sont pas armés sont entraînés à tout va de doctrine, appelés à une fausse liberté. Ils ne voyant pas toujours les obstacles comme cette baie vitrée, pensant qu'il y a là un espace de liberté. Et d'un coup, le jeune se heurte. Et le voilà prisonnier. On peut souligner les dangers qu'ils peuvent voir et entendre sur la sexualité, sur la pornographie, les dangers qui touchent même l'identité de l'être. Nous sommes ce que Dieu a fait que nous sommes, hommes, femmes. Bien sûr, nous ne sommes pas 24 heures sur 24 avec nos enfants, mais c'est normal. Sinon, on irait à l'école avec eux. Je pense que moi, si on m'avait donné la possibilité, j'irais en JGN. Hein. J'aurais été tous les jours à l'école avec elles. Mais bon, hein. Merci Seigneur, ça les a épargnés. Hein. Mais est-ce que nous les armons assez pour affronter la vie? Est-ce que nous les instruisons assez pour les aider à discerner? Nous ne pouvons pas nous cacher derrière « Oh, moi, Internet, je n'y connais rien ». Où toutes ces théories du genre, etc., me dépassent. Mais nous pouvons au moins leur rappeler que chacun de nous a une valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est à la portée de tout chrétien, non? Jacques, ce matin, dit, voilà, cette femme pécheresse qui est venue avait de la valeur aux yeux de Dieu. On n'a pas besoin de faire des cours de théologie pour cela. Quel conseil donnons-nous à nos enfants? Quel conseil cherchons-nous dans la parole de Dieu? On peut même aller sur des sites chrétiens qui sont très bien faits, qui peuvent être des outils, mais absolument pertinents. Psaume, Proverbe 22, verset 6, instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. C'est pas toujours évident d'instruire, c'est pas toujours évident d'éduquer. C'est même fatigant en réalité, parce qu'on n'a pas toujours la tête à ça. Mais instruire ses enfants afin de leur donner des moyens de faire les bons choix. Nos enfants, ils sont comme nous, hein. Ils sont pécheurs et rebelles envers Dieu, par nature. Mais l'instruction, c'est de leur apporter un cadre. C'est surtout aussi de leur montrer où se trouve et qui est le Père Céleste. Je me souviens de cette femme qui était venue, qui me disait « Ah, mes petits-enfants ne veulent pas venir à l'église. Je les ai invités à venir au groupe de jeunes, etc., au groupe d'ados. Ils n'ont jamais accepté. Et Dieu sait qu'on les avait relancés. » Et en discutant avec cette grand-mère qui était chrétienne et qui était de bonne volonté, eh bien, on s'est aperçu qu'elle mettait beaucoup d'énergie dans les devoirs scolaires. Elle avait mis la réussite professionnelle en avant. Et ses enfants étaient brillants. Elle les accompagnait à toutes les activités sportives, activités artistiques. Elle était constamment derrière eux. Voilà, cahier de devoirs pendant les vacances, etc. Il n'y a pas de cahier de vacances pendant les devoirs. Ça. Elle était constamment en train de les coacher. Et puis je lui ai posé la question. Ils m'ont posé, mais est-ce que tu leur parles de choses spirituelles? Ah non, je ne veux pas les brusquer. Mais comment veux-tu qu'à 15 ans, ils puissent être instruits et être intéressés par les choses spirituelles? Il est évident que, et Jacques, c'est vrai, des fois on amène nos enfants par contrainte à l'église, hein, avec le taser et tout, non, on n'en est pas là. Hein. Pas du tout, et Dieu merci. Mais quand même, c'est une bénédiction lorsque nos enfants sont là. Joseph était un homme de bien, était un homme qui transmettait des valeurs. Il n'était pas détaché, indifférent aux choses spirituelles. Et c'était aussi un homme de décision. Joseph était aussi un homme qui aimait sa femme. Il est dit qu'il ne voulait pas la diffamer et se proposa de rompre discrètement, secrètement avec elle. Pourquoi? Par amour. Voilà un homme qui aime sa femme. Et quand on aime quelqu'un, On n'a pas envie de blesser cette personne. Il a pensé à protéger sa réputation. Et je suis sûr que, puisqu'il aime Dieu et qu'il aime sa femme, il va aussi aimer son enfant adoptif et ses enfants plus tard. Notre problème, c'est que nous avons tendance à considérer le mariage comme une finalité. Hein? Ça me fait penser, on joue au foot. Bon, maintenant tout le monde joue au foot, hein? C'est super, les garçons et filles, c'est génial. On joue au foot et on a marqué un but. Et d'un coup, on sort du terrain. Mais c'est pas fini. Le match continue. C'est la même chose pour l'engagement du mariage. On s'est marié, on va pas arrêter là. Il faut continuer à aimer. On peut pas dire que j'y suis arrivé. C'est pas un statut qu'on a atteint et c'est bon, j'ai le grade. Comme je le dis souvent, vous savez, nous les gars, allez, on est entre nous, hein. Les sœurs, fermez les oreilles. On a plutôt tendance à faire le pacha en vérité, hein. Ah là là, hein. Et on est là, vautré sur le canapé, et on entend madame en train de préparer quelque chose dans la cuisine. Et on entend, et on se dit, ah quand même, moi je fais rien. Alors on lance un petit, chérie, tu as besoin de moi? Mais vraiment, hein. Et puis là, on se dit, j'espère qu'elle dise non. Et puis on entend, non, je n'ai pas besoin de toi. Et là on dit, waouh, merci. Et on se donne bonne conscience. Moi, j'ai proposé et elle a refusé. Quel soulagement. Ah, mon frère, ma sœur, ce canapé. Ah, ce canapé. Aïe, aïe, aïe. Honnêtement, c'est ça l'amour. Honnêtement. J'ai dû demander pardon à Dieu. Parce que j'étais tranquille au niveau de ce que moi, je pensais. Paul dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Ah. C'est la fête des pères aujourd'hui, hein. Le mot amour, dans la parole de Dieu, est beaucoup utilisé pour les pères. C'est extraordinaire, hein. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, aimez votre femme, comme le Christ a aimé l'Église. Et c'est ça, moi, j'ai fait une version où il n'y aurait pas ça, ouais. Et voilà, juste le début. Et non. Oui. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Verset 28. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et verset 33. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Ah. Quelqu'un a dit que la meilleure chose qu'un père puisse faire pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère. La meilleure chose qu'un père puisse faire pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a des situations terribles, hein, qui nous dépassent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'amour ne peut pas être exclu du foyer sans conséquence. N'est-ce pas? Marie, aimez chacun votre femme. En réalité, tous les sujets qui divisent dans un couple un homme et une femme, en réalité, c'est des sujets qui sont très secondaires. Hein. Vraiment. C'est des sujets de, il m'a pas, voilà, quand je lui ai dit ça, elle a pas voulu ceci, etc. Et ça prend, et ça prend, et ça prend. Mais la base, ce qu'il y a derrière, la motivation réelle, c'est qu'il y a parfois un manque de pardon, un manque d'amour, ce type de choses. Vous savez, pendant que le monde est focalisé par le dérèglement climatique, la hausse des prix, la guerre qui en nous porte, et c'est des sujets sérieux, hein, mais pendant ce temps-là, le diable continue à attaquer nos foyers, constamment, constamment et sans relâche, à cibler les familles afin de pouvoir les détruire. Et ça, malheureusement, ça passe jamais aux infos. Il garde vraiment la même politique. Alors lui, il change pas, hein. Il a un parti politique qui marche, hein. Lui, il change pas. Vous savez comme il a réussi à se mettre entre Adam et Ève, hein? Il a commencé à mettre un peu le bazar là-dedans, à troubler leur relation, au point qu'ils n'osaient même plus se regarder l'un l'autre parce qu'ils avaient honte. Ah, t'es nul, ah, je suis nul, ah, quelle horreur! Et puis ils sont cachés. Mais non seulement ça, mais il a mis aussi des troubles entre eux et Dieu. Il a enlevé la paix de Dieu. C'est le même principe. Le diable veut continuer à mettre le trouble entre nous et Dieu, nous, les uns envers les autres. Selon la Bible, le foyer devrait être un havre d'amour. Alors, je dis pas, voilà, avec le, hein, la harpe et tout, hein, on fait la maison, c'est beau, c'est le printemps. Non, pas du tout, hein. Nous, ça fait, cette année, 30 ans que nous sommes mariés. Et en 30 ans, pas une dispute! Ah, ma femme est là, désolé, excusez-moi. Mais évidemment, c'est pas ça. Évidemment que c'est pas ça. Mais, cet art d'amour que Dieu veut, eh bien, cela passe par des actes, cela passe par des témoignages. Le but de Dieu, c'est que nous grandissions dans ses valeurs à lui. Et le manque d'amour va forcément créer une insécurité. Proverbe 15-17 nous dit « Mieux vaut un plat de verdure, c'est le menu de midi, hein, où règne l'amour, qu'un bœuf au barbecue engraissé si la haine est là. » Vous êtes d'accord avec ça, hein? Alors, les sœurs, à midi, c'est salade. Ok, mais l'important, c'est l'amour là-dedans. Si vous avez prévu barbecue, il n'y a pas de souci. Le manque d'amour est destructeur. Ne nous lassons jamais de dire « je t'aime ». Jamais. Eh oui. Est-ce que nos enfants le savent? Le meilleur moyen, c'est de leur poser la question. Est-ce que vous savez qu'on vous aime? Ils vont dire oui, mais jusqu'à quel niveau? Comment est-ce que vous le vivez? Vous savez, c'est une erreur qui a coûté très cher à David. Quand David s'est désintéressé de son foyer et qu'il a regardé une autre femme, oh là là, ceux qui ont payé, ce sont ses enfants. Et j'ai trouvé ça intéressant. Parce que quand Nathan vient à voir David en lui disant, tu sais, c'est l'histoire d'un gars qui était pauvre et qui avait une brebis qu'il aimait par-dessus tout. Et le riche voisin qui est là, alors lui, voilà, BMW, garé, etc., tout ça et tout. Et il reçoit des invités et il prend la brebis du pauvre. Que dit David? Ah, il pète un câble, il s'énerve, hein, évidemment. Ah, hein. Que réclame David? Combien le riche doit-il lui rendre de brebis? Quatre, cinq? Non. Combien? Regardons. Je vous laisse regarder et me dire la réponse. Combien de brebis? Cet homme doit-il réclamer combien? Il le dit, hein? Eh bien, je vous laisserai découvrir ce texte et comptez le nombre d'enfants que David aura perdu. C'est exactement le même nombre que David a réclamé comme compensation. L'attitude du roi David, qui s'est désinvesti de son foyer, qui a investi ailleurs, a été destructeur pour ses enfants. Voyez la responsabilité que Dieu nous donne. On se sent petit quand même, hein, mais il est là pour nous aider. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-il advenu de Joseph? Joseph a été un mari aimant, un père aimant. Mais Joseph, le père adoptif de Jésus, ne verra jamais quelque chose que nous avons vu. C'est la croix. Joseph ne connaîtra pas le mont Golgotha, mais nous, oui. Mes frères, cette croix se dresse devant nous et elle nous appelle à reconnaître notre folie et nos erreurs et nos péchés. Il n'y a qu'un seul et unique remède. Au lieu de fuir Dieu, nous devrions venir à la croix. Roy Eschen disait ceci, un cœur dur dit « c'est de ta faute ». Un cœur brisé dit, c'est de ma faute. Qu'est-ce que la femme pécheresse a fait? pour que le parfum se répande. Elle a brisé ce vase d'albâtre. Le Seigneur nous appelle à venir à lui en étant brisé. Oh, Yeshua dit aussi et ajoute ceci, n'oublions pas qu'à la croix, il n'y a qu'une seule place. Qu'une seule place. C'est-à-dire, mon frère, que nous ne pouvons pas dire, oh, tu sais, j'ai des torts, tu as des torts. Viens, on y va tous les deux, et vu qu'on est galant, après toi, va à la croix d'abord, je te rejoins. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut y aller seul et dire, c'est de ma faute. Il faut y aller seul et ne pas attendre que l'autre puisse, voilà, quelque chose de l'autre. Dieu travaillera son cœur, peut-être il mettra le temps qu'il faudra. Il est possible que cela prenne du temps. Mais moi, je dois régler mon problème à moi, à la croix, le seul lieu où se trouve la paix avec Dieu. Oh, nous devrions, mes frères, sincèrement nous repentir pour tous nos manquements et compter sur la grâce du Seigneur pour nous relever et la puissance du Saint-Esprit pour nous faire marcher avec lui. Ce matin, nous avons entendu la lecture d'un psaume 50 qui dit ceci. Invoque-moi au jour de la détresse et moi, je te répondrai. Notre but n'est pas de devenir le meilleur père du monde. On n'y arrivera pas, hein. C'est clair. Mais de vivre selon les principes du Père. Vivre l'évangile. L'évangile dit, enfin, 1 Corinthiens 16, 13 nous dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. Fortifiez-vous. Notre prière, c'est que nos enfants soient au Seigneur, n'est-ce pas? On n'est jamais trop vieux pour apprendre et pour changer. Qui peut dire qu'il a été un père formidable? Que nos femmes ne répondent pas. Nous avons tous commis des erreurs et malheureusement, nous en commettrons encore. Oui. Mais en tant qu'enfants de Dieu, en tant que père chrétien, nous avons un modèle qui est celui de notre Dieu, fort et redoutable, riche en bienveillance et en grâce, comme nous l'avons entendu ce matin. Ce Dieu que l'on peut appeler maintenant notre Père, qui est aux cieux. Par contraste aux pharisiens de qui Jésus a dit, « Vous avez pour Père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. » Mon frère, que notre Père céleste t'aide et qu'il m'aide, tout homme, tout mari, tout père, à se consacrer à lui. Avec son aide, que nous puissions prendre notre place, être un exemple devant le monde, dans nos foyers et devant nos enfants. Que le Seigneur vienne à notre aide et qu'il bénisse nos foyers. Amen.